Pays Midikersi Mater. La terre crue dans le bâti, jusqu'ici, tout le monde nous en a dit du bien. C'est pas cher, il y a qu'à se baisser, c'est isolant phoniquement, pour peu qu'on l'enduise avec par exemple du chanvre, c'est isolant thermiquement, ça a une bonne inertie, une bonne absorption de l'humidité, bref, que des avantages. Mais y a-t-il aujourd'hui des autoconstructeurs qui bâtissent une maison contemporaine avec cet élément ? Les Noals, au bout d'une route perdue au-dessus de Bruniquel, est un hameau où Boris Pratt reçoit 3 ou 4 fois l'an près d'une trentaine de candidats à l'autoconstruction et il leur présente comment il a conçu sa maison bioclimatique et les erreurs à ne pas faire. C'est l'espace Info Énergie 82 qui prend les inscriptions, mais vous pouvez visiter le chantier des 3 ans de construction sur le blog de Boris. Il y présente un diaporama, ses réflexions et même son budget. Il suffit de taper « Les Noals » sur votre moteur de recherche Internet. Rencontre avec l'autoconstructeur Boris Pratt lors d'une visite.
Je me présente Boris Pratt et je vais vous faire visiter cette maison qu'on a en grande partie autoconstruite avec quelques artisans et pas mal de coups de main. Il nous a fallu 1 an et demi de travaux. On y est maintenant depuis 2 ans et on est content du résultat. Il y a un aspect important, c'est qui intéresse souvent tout le monde, c'est les aspects de budget. Donc on a une maison qui fait un peu plus de 170 mètres carrés et la construction en dehors du terrain nous a coûté 175 000 euros, ce qui fait 1 000 euros de mètre carré. Et pour ce prix-là, en général aujourd'hui sur le marché, vous avez une maison qui est ni efficace, ni écologique, qui vous assure une bonne santé.
Alors celle-là est écologique, pourquoi ?
Alors, la définition que je donne à une maison écologique, c'est 3 choses. C'est une maison qui est efficace du point de vue énergétique, c'est-à-dire qui va utiliser un minimum d'énergie pour son chauffage, pour faire de l'eau chaude, etc. Une deuxième chose, c'est une maison dont les matériaux sont le moins polluants possible et ont utilisé un minimum d'énergie pour arriver sur le chantier. Donc l'exemple que je donne souvent, c'est entre de l'aluminium et de la terre crue. L'aluminium, il y a une filière très complexe et très énergivore, alors que la terre crue, on creuse un trou et on peut faire une maison comme c'est fait dans le bâti ancien. En termes de résultats, justement, par rapport à la consommation et au chauffage de la maison, on a 230 euros de chauffage par an.
Et c'est du bois.
On brûle 3 tonnes de bois dans le poêle de masse pour chauffer toute la maison pendant l'hiver. Ce qui correspond à la facture de chauffage d'une maison d'un bâtiment basse consommation, alors que la moyenne française est à 900 euros de facture de chauffage par an. Et ça peut aller jusqu'à des 2000 et plus pour des maisons mal isolées avec un chauffage pas efficace.
Ça veut dire qu'on se pose des questions à tous les niveaux. Avant même de commencer des fondations, on s'est posé la question de est-ce qu'on l'isole du sol, est-ce qu'on enlève la terre.
Et effectivement, sur ce type de projet, c'est intéressant d'y réfléchir longtemps à l'avance. Et pour notre cas, on a passé 2 ou 3 ans à bouquiner, à surfer sur Internet, à visiter des chantiers, à participer à des chantiers. Voilà, c'est une phase qui est très importante, qui permet de se muscler sur tous ces sujets. Et ça permet d'éviter tous les écueils et les découragements que vous allez fatalement rencontrer dans ce type de projet, où les marchands de matériaux vont vous dire que ça n'existe pas, où les artisans vont vous dire que c'est pas possible. Bref, alors que si vous avez bien étudié la question, vous êtes capable de répondre aux objections et de faire avancer votre projet sans le dénaturer en route.
Veut dire quoi ? Qu'on peut avoir raison face à des normes des TU ?
Non, c'est pas. On est dans l'autoconstruction, donc à la limite, c'est pas par rapport à ces histoires de normes. C'est en termes, vous voyez, à la fois de technique constructive et de trouver les bons matériaux. Voilà. Je vais prendre un exemple tout bête du genre de faire une dalle à la chaux. Si vous rencontrez 10 maçons, il y en a 9 qui vont vous dire qu'une dalle à la chaux, ça fissure. Bon, ben nous, on a fait une dalle à la chaux, j'ai pas encore trouvé de fissure. C'est ce type d'exemple-là, où un marchand de matériaux qui va vous dire « Oh non, faites pas ça, ça va vous coûter cher », bref, voilà.
Pourquoi vous mettez pas du polyane sous une chape ?
Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de plastique sous la chape. C'est pas utile. On reprend des logiques des bâtis anciens qui laissaient circuler la vapeur d'eau et l'humidité et qui n'avaient aucun problème jusqu'à ce qu'on y colle du ciment et du plastique. Il y a une autre chose aussi qui est importante et qui coûte zéro. et qui rejoint ce qu'on disait sur le fait de réfléchir avant, c'est où poser la maison et dans quel sens la tourner, de quel côté mettre les pièces. Voilà, ça c'est des choses qui s'appellent la conception bioclimatique, qui coûtent rien du tout et qui font la différence sur 10 à 15% de consommation. C'est-à-dire que la même maison, sur le même terrain, si elle est tournée dans le bon sens, elle consomme 10% de plus ou 10% de moins selon l'orientation. C'est fermé au nord, ouvert au sud, protégé des vents froids et humides d'ouest et du nord. Voilà, c'est des choses qui sont basiques et qui étaient du bon sens jusqu'à encore 50 ans et qu'on a eu tendance à oublier dans la folie des 30 Glorieuses.
Bon, on va faire la visite, on va vous laisser raconter au public puisque vous recevez, je crois que c'est l'espace Infoénergie qui vous amène un groupe trois fois par an et gentiment vous leur donnez les grands principes.
Voilà, on fait ce que j'appelle de l'éducation populaire sur l'habitat, c'est-à-dire d'essayer de donner des clés aux gens de compréhension en l'illustrant d'un exemple précis, mais en essayant de faire en sorte que les gens puissent partir avec des clés de compréhension pour faire des choix, pour pouvoir discuter et comprendre comment ça marche. Voilà, comment ça marche.
Nuestro lugar, hoy viuda y sola, y ayer por casar, viendo que sus ojos a la guerra van. A su madre dice que escucha su mano. Dejadme llorar. Del mar, pues me diste madre en tan tierna edad, tan corto el placer, tan largo el pesar, y me cautivaste de quien hoy se va. Y lleva las llaves de mi libertad. Dejadme llorar. Dulce madre mía, ¿quién no llorará? Aunque tenga el pecho como un pedernal y no dará voces viendo marchitar los más verdes años de mi mocedad. Dejadme llorar orillas del mar. En llorar conviertan mis ojos de hoy más el sabroso oficio del dulce mirar, pues que no se pueden mejor ocupar. Yéndose a la guerra, ¿quién era mi padre? Dejadme llorar, orillas del mar.
Pays Midi-Quercy, Mater, visite guidée dans la maison de l'autoconstructeur Boris Pratt.
Dans la conception d'une maison pour la performance, il faut toujours penser aux deux saisons extrêmes qui sont l'été et l'hiver. Donc il y a deux stratégies différentes pour ces deux saisons. En hiver, ce qu'on veut, c'est garder le chaud ou le récupérer. Alors le récupérer, vous le voyez là avec ce rayon de soleil, c'est les baies vitrées au sud, ok ? Donc le soleil passe à travers les vitres et chauffe la maison, chauffe à la fois l'air et puis aussi les matériaux, donc le mur en pierre, le mur en terre derrière, les tomates au sol qui vont stocker de la chaleur tant qu'il y a du soleil. Le but, évidemment, c'est de conserver la chaleur qu'on va produire avec le moyen de chauffage ou avec le solaire passif. Et puis aussi de faire en sorte qu'il y ait une distribution de ces calories. Alors, par exemple, dans notre maison, c'est le mur en terre qu'il y a derrière qui sert finalement de chauffage. C'est pas lui qui fait le chauffage, mais qui sert de diffuseur de chaleur. D'accord ? Il est au milieu de la maison. Il est totalement isolé de l'extérieur. Là, au bout, il y a du béton de chambre. Et de l'autre côté, il arrive dans le mur intermédiaire et il n'est pas en contact avec l'extérieur. Il monte jusqu'à l'étage. Il est juste derrière le poêle chauffe le mur stocke du chaud et le diffuse d'une façon douce, comme un peu les planchers chauffants ou des choses comme ça, dans toutes les pièces de la maison. L'inertie, c'est intéressant parce que ça fait un amortisseur. C'est un peu comme dans les voitures, en fait. Si vous n'avez pas d'amortisseur sur la voiture, vous prenez les chocs. D'accord ? C'est-à-dire que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est pas confortable. Une maison, c'est pareil. Vous avez aussi besoin d'avoir des amortisseurs. Les amortisseurs, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est des matériaux lourds. Les matériaux lourds vont lisser les variations de température. Il y a de l'air chaud qui rentre, ils absorbent du chaud. Il y a une production de chaleur, ils vont absorber. Il se met à faire moins chaud, par exemple, comme en ce moment où on fait une flambée tous les deux jours. Au moment de la flambée, les matériaux lourds stockent la chaleur et ensuite vont la diffuser au fur et à mesure que la température dans la maison diminue. Enfin, elle diminue pas parce que justement, les murs déstockent des calories. D'accord ? Donc c'est pour ça que c'est toujours intéressant, que ce soit l'hiver ou que ce soit l'été, d'avoir des matériaux lourds, ça fait les amortisseurs dans la maison. Et il se trouve aussi, avec les matériaux utilisés ici, et c'est le cas de la plupart des matériaux écologiques, le chanvre, la terre crue, ce sont aussi des matériaux qui font amortisseurs en termes de taux d'humidité. Et ça aussi, c'est très important, et c'est un facteur de confort très important, le fait d'avoir une humidité qui soit régulée et qu'il n'y ait pas de variation importante. Ces matériaux-là vont capter l'humidité en trop dans l'air, quand vous prenez des douches, quand vous faites de la cuisine, etc. Et au contraire, quand l'air s'assèche, ils vont relarguer leur humidité. D'accord ? Donc le taux d'humidité dans ce type de maison est très constant et c'est un facteur de confort très important. Parce que l'humidité, plus l'air est humide et la sensation de confort diminue. Et en plus, ça transporte aussi des calories. Quand l'air est humide, il transporte plus facilement les calories. Donc je vous ai parlé de la stratégie de l'hiver. On capte les chaleurs, on la conserve et on la stocke. En été, c'est l'inverse, on cherche à s'en protéger, donc on a parlé de la tonnelle tout à l'heure. On cherche à éviter que l'air chaud du dehors rentre, on l'a parlé au niveau de la toiture avec l'inertie de l'isolant qui est capable d'encaisser de la chaleur. Et puis on va aussi chercher à ventiler. Alors un point sur la ventilation dans cette maison, il n'y en a pas. Alors, d'un point de vue vraiment d'une performance énergétique, on pourrait faire mieux avec ce qui existe aujourd'hui, qui sont des ventilations double flux, où l'air qui sort de la maison va réchauffer l'air qui rentre dans la maison. Nous, on a fait un choix différent, un choix basse technologie, qui est de rien mettre du tout, qui est d'avoir des matériaux qui régulent l'humidité, parce qu'une partie de la ventilation, c'est pour réguler l'humidité. Nous, il n'y a pas de ventilation, même pas dans les salles de bain nulle part, et au bout de 4 douches, il y a pas un gramme de buée sur les vitres parce que le béton de chanvre a une capacité hygroscopique très importante. C'est-à-dire qu'il est capable de stocker 5 fois son poids en eau. On peut y aller à produire de la vapeur d'eau. Avant que le béton de chanvre soit saturé, il y a le temps. Pareil pour la terre. Par contre, pour le renouvellement de l'air, comment on fait ? Alors, il y a un puits canadien ou un puits provençal selon le pays dans lequel on se trouve. C'est la même chose mais avec une logique inverse. Dans nos régions, ça marche pour les deux saisons, c'est-à-dire que l'air neuf qui rentre dans la maison, et nous le puits canadien il sert surtout pour cette bête-là, c'est-à-dire à apporter de l'air frais pour la combustion du poêle. L'air il rentre dans un tuyau au bout du terrain là-bas, dans un tuyau qui est enterré à 2 mètres dans le sol, et vous savez que le sol hiver comme été, il est toujours à la même température, 13 degrés et des poussières. Donc cet air qui rentre en hiver à moins 10 ou à 0 est tempéré pendant son passage dans le tuyau et quand il arrive ici, il est à, alors selon la température extérieure, mais il n'est pas à 13 degrés parce qu'il n'a pas non plus le temps de prendre vraiment la température du sol, mais on gagne déjà 5, 8, 10 degrés selon la température extérieure. Et l'été, c'est l'inverse. L'été, l'air qui rentre à 35, il passe dans un tuyau pendant une trentaine de mètres qui est à 13 et donc il arrive ici à 20 degrés. Et donc c'est autant de gagner, que ce soit en chauffage l'hiver ou en climatisation l'été, évidemment, il n'y a pas de climatisation. Il n'est pas mécanisé le puits canadien. Donc l'hiver, c'est le poêle en fait, c'est le tirage du poêle qui tire l'air, qui met la maison en dépression, et donc l'air est tiré parce que la maison est en dépression à travers la combustion du poêle. Et en été, en gros, vu qu'on n'a pas de problème de surchauffe, l'idée c'est de le fermer, Parce qu'en plus, les puits canadiens en été peuvent poser un peu plus de problèmes en raison de la condensation de l'air. Parce que l'air chaud contient plus d'humidité. Quand il passe dans le tuyau, il se refroidit. Donc il y a une condensation. Et donc ça fait de l'humidité dans le tuyau et c'est pas forcément très bon. Si on veut vraiment renouveler l'air, on ouvre les fenêtres.
Midi-Quercy, Mater dans tous ses états, une émission de connaissance de notre territoire.
Les Noëls chez Boris Pratt, visite guidée chez un autoconstructeur.
On va reprendre la même logique que le bâti ancien, qui, soit dit en passant, est en général bien plus durable que le bâti conventionnel, puisque ça fait 200 ans qu'il est là. C'est-à-dire que là, la vapeur d'eau, on la laisse circuler, l'humidité, on la laisse circuler. D'accord ? Parce qu'avec toutes ces techniques modernes de plastique, ça va très bien, à part le plastique, mais au niveau du bâti, ça marche tant qu'il n'y a pas une fente. À la moindre fente dans le plastique, encore une fois, la vapeur d'eau, c'est comme les calories, elle trouve toujours la faille. Du coup, vous allez avoir l'humidité qui va s'engouffrer dans cette fente dans le plastique, et puis vous allez créer tout de suite un problème dans le bâti, parce qu'en plus, derrière, vous avez du ciment, donc c'est imperméable, donc ça va condenser, ça va faire une flaque, etc., ça va mal finir. Dans ce type de construction où c'est uniquement de la chaux qui est utilisée et où il n'y a pas de plastique nulle part, l'humidité, elle circule. D'accord ? Vous voyez, il ne fait pas humide ici. Je veux dire, quand il pleut beaucoup et qu'effectivement le sol autour est gorgé d'eau, cette humidité va aussi finir par gagner le sol qui est sous la maison. Et il y a une partie de cette humidité qui va traverser la dalle, qui va traverser les tomates, qui va arriver dans la maison et qui va circuler, qui va aller dans les murs et qui va ressortir. Et tout ça va se réguler en continu et en circulant sans avoir aucun problème et sans passage par la phase eau. D'accord ? Ça reste de l'humidité qui passe à travers le matériau, il n'y a pas de condensation, parce qu'il n'y a aucun matériau qui arrête cette humidité et qui fait qu'à un moment ça se stocke et ça se condense, et donc là on commence à avoir un problème. Dans le bâti ancien, pour ceux qui en ont, qui éventuellement pourraient dire « ouais, les maisons en terre crue, c'est pas bien, ça prend la flotte, les murs pourrissent, on a du salpêtre, etc. » Ces maisons n'avaient aucun problème d'humidité jusqu'à ce qu'on commence à faire des enduits au ciment à l'extérieur et des enduits au ciment à l'intérieur et des trottoirs en béton devant. Ces maisons n'ont jamais eu pendant 150 ans le moindre problème d'humidité jusqu'à ce qu'on fasse ça. Et une fois effectivement que dans une maison en terre crue, vous faites à l'extérieur un enduit au ciment, toute la vapeur d'eau que vous produisez, et on en produit beaucoup en respirant chaque jour, rentre dans le mur, et puis elle arrive à l'enduit en ciment, et elle s'arrête là, et elle se condense, et elle coule au pied du mur, et effectivement la terre c'est un matériau qui pompe l'eau, donc cette humidité est repompée, elle monte à travers le mur, parce que de chaque côté il y a un enduit qui n'est pas perméable à la vapeur d'eau, donc ça monte, il y a du salpêtre, et puis vous dites, hein, mince, alors on le voit sur certaines maisons, au début les gens avaient fait 50 cm d'enduit ciment, et puis l'humidité est montée, donc le salpêtre arrive au-dessus de ces 50 cm. Donc ils refont 50 cm d'enduit ciment, parce que le ciment, c'est bien connu, ça règle les problèmes d'humidité. Donc ils refont 50 cm d'enduit ciment, et puis 2 ans plus tard, le salpêtre, ils arrivent à avoir du salpêtre en haut du mur, en disant mince, qu'est-ce qui se passe ? Bon, ben sur ces maisons-là, vous prenez un marteau, un burin, vous faites un trou tous les 50 cm, vous attendez 2 ans, et il n'y a plus de problème de salpêtre et d'humidité. Alors sur les adobes, ça c'est de la récup en fait. Les adobes, c'est ça, c'est des briques de terre crue moulées. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas été compressées par une machine ou quoi. C'est ce qui se fait dans le bâti traditionnel, dans tout le Tarn-et-Garonne et autres. C'est-à-dire qu'ils ont un moule en bois, ils mettent de la terre dedans et ils laissent sécher et ça fait des briques et des maisons. Donc ça, c'est de la récupération. J'ai eu la chance d'en trouver des montées proprement, pas cassées, etc. Et on a rebâti le mur. Donc ça, c'est pareil, c'est maçonné à la terre, terre et sable. Pour ceux que ça intéresse, si on frotte comme ça, on peut arriver à faire de la poussière sur des briques en terre crue. Évidemment, la chose à pas faire, c'est de mettre un revêtement qui va empêcher ce matériau à la fois de stocker du chaud et l'humidité. Le truc le plus courant, le plus simple, le moins cher, c'est d'y passer de la colle à tapisserie. Ce que vous voyez au fond, c'est aussi une autre façon de faire des cloisons simples et pas chères, efficaces et écologiques. C'est-à-dire qu'il y a une ossature en bois, d'accord, des montants d'ossature, il y en a un tous les 50. Ensuite, vous allez agrafer les canisses, c'est ce que vous voyez là, d'un côté. Et de l'autre côté, un peu comme mon histoire de Lati tout à l'heure, vous allez agrafer les canisses sur le bas, sur une cinquantaine de centimètres. Et puis vous allez remplir. Donc là, on a rempli avec un mélange de terre, de paille et de copeaux. Très peu d'eau. C'est vraiment juste mouillé, quoi, juste humide. Et voilà, vous remplissez avec ça. Ça coûte rien du tout. C'est la terre du jardin. De la paille et des copeaux, ça se récupère partout. Et vous faites des cloisons qui sont phoniquement intéressantes, qui stockent de la chaleur, qui stockent de l'humidité pour un coût et un impact écologique minimal. Là-dessus, après, on fait un enduit à la terre paille. Là, il y a l'enduit de corps qui est fait, il manque l'enduit de finition. Et voilà, vous avez des murs qui sont intéressants. À mon avis, plus jolis que du placo, mais après...
Pays Midi Quercy, Mater dans tous ses états, une émission de connaissance de notre territoire.
Boris Pratt, qui a construit sa propre maison écologique, nous fait visiter sa maison. Un dernier tour.
Vous verrez aussi dans la pièce là à gauche, en allant marcher, vous allez regarder le sol, vous allez vous pencher pour le toucher. C'est un sol en terre battue. On a fait une finition à la terre, un peu comme un enduit, d'accord, mais au niveau du sol. Et la seule différence au niveau de la mise en œuvre, c'est qu'une fois, qu'on a eu fini le sol, on a saturé cet enduit en terre avec de l'huile dure. L'huile dure, c'est l'huile qui sèche, en fait, hein, d'accord, qui devient dure. Voilà, vous regarderez, c'est assez surprenant. Et encore une fois, voilà, ça permet d'utiliser de la terre, qui est le matériau le moins coûteux et le plus écologique. Il faut toujours qu'il y ait une quantité d'argile minimum, parce que c'est l'argile qui fait la colle. Si vous n'avez pas d'argile, ça tombe. Alors pour tester aussi sur, si vous avez par exemple pour faire des enduits, ben vous pouvez prendre la terre de votre jardin, vous allez la prendre telle quelle, vous allez la mouiller pour avoir un peu une texture liquide mais qui se tient, où on peut faire une boule avec, et vous allez l'étaler sur un bout de mur. Vous faites des petits bouts d'enduit de 10 sur 10, vous l'étalez sur le mur, tel quel, en la prenant tel quel. Après vous allez rajouter un volume de sable, puis deux volumes de sable, et puis à chaque fois vous faites 10 sur 10 d'enduit, puis vous laissez sécher. Quand ça craquelle, c'est qu'il y a trop d'argile. Donc dans ce cas-là, si vous avez besoin de faire un enduit, il faudra rajouter du sable. Si ça tient pas, s'il tombe, c'est qu'il n'y a pas assez d'argile.
Pays Midi Quercy, Mater dans tous ses états, une émission de connaissance de notre territoire. Retrouvez Pays Midi Quercy Mater dans tous ses états le mardi à 12h30 et le samedi à 18h.